la FM la plus musicale le matin.
Transistor.
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 Transistor. La journée de la radio fait son grand retour sur Transistor.
Transistor. La journée de la radio, c'est le 13 avril sur Transistor, en direct toute la journée.
Vous appelez et vous raflez toutes les 10 minutes le double album de Serge Gainsbourg.
Que vous soyez partisan des ondes.
Est-ce que vous sentez les ondes ?
Partisan du podcast.
Elles sont là, elles sont partout.
Oh non, pas ça.
Oh, elles sont dans les campagnes, dans les villes, elles sont sur les réseaux sociaux.
Des tables rondes, des créations, des fictions. C'est dans ton poste toute la journée sur Transistor.
C'est la meilleure émission que j'ai jamais faite.
Les deux là au fond, ça vous intéresse pas ce que je raconte? Alors je reprends.
La journée de la radio, c'est le 13 avril sur Transistor.
Chers auditeurs, il est 19h, l'heure de retrouver les...
Transistor.
C'est plutôt FM ou podcast?
Oh, ça dépend des jours.
Eh bien, podcaster maintenant.
Pas mal, non?
C'est Transistor.
Bonjour ou bonsoir, selon l'heure où vous nous écoutez. Ici Sens sur Transistor, qui essaie de donner un peu de sens à l'actualité.
Le sens qui n'est pas une pièce matérielle. Et il a un sens pour l'homme en raison des besoins de l'homme ou en raison de la signification que, comme philosophe, sociologue, il lui attribue.
Bonjour à tous, en direct de la JDR. Aujourd'hui, un sens un petit peu particulier pour revenir sur la question du podcast. Alors, comment j'ai saisi cela ? En fait, ça m'a fait penser à quelque chose dans les deux premiers sens. À la question de la foule. Pourquoi ? Mais parce que j'étais revenu sur qu'est-ce que les gens peuvent penser du podcast ? Qu'est-ce que les gens de la radio pensent eux-mêmes du podcast ? Puis je me suis souvenu de notre intervenant philo préféré, Raphaël Enthoven.
Ah, ce grand Raphaël.
Mais en fait, vous pouvez en prendre complètement d'autres, mais ils ont une peur panique des réseaux sociaux. Et ils ont aussi une peur panique du podcast, de la manière dont il se diffuse sur Internet. En fait, il y a vraiment une peur qui revient aux peurs primaires d'une certaine forme de l'aristocratie ou une certaine forme de l'establishment. C'est la peur de la foule. Vraiment, j'aurais bien voulu trouver l'extrait précis où il parle de ça, mais il y a vraiment quelque chose de profond qui fait que l'expression incontrôlée des gens, et là, cette fois, mis par le podcast, est sublimé par la forme de la radio, les terrifie. Ils ont peur de quoi ? Dès que vous l'entendez avoir peur des réseaux sociaux, vous pouvez transposer ça sur le podcast. Il y a la peur d'une expression qui est non médiatisée. Il y a la peur de la violence qui serait intrinsèque au mouvement populaire. Et il y a, comme nous le rappelons dans le deuxième épisode de Sens, cela remonte à très longtemps. Si on reprend la psychologie des foules du sociologue et psychologue Gustave Le Bon, on se rend compte que c'est quelque chose qui est à l'origine du monopole sur les médias. Il faut en fait un filtre. Et pour celles et ceux qui se connaissent un peu en histoire, si vous regardez le courrier des lecteurs qui était reçu par le Petit Journal, qui était reçu même par l'Humanité ou ce genre de choses, les journalistes étaient obligés de faire le filtre, et on peut le retrouver encore avec le téléphone sonne, avec, et je sais que certains membres de Transistor le savent très bien, des expressions un peu peu contrôlées de la parole, qu'on est bien obligé de filtrer. Il y a toujours l'idée que l'expression peu contrôlée de la parole, surtout d'une parole qui serait de plus en plus démocratisée, mettrait à bas les fondements d'une société policée. J'ai envie de dire même peut-être de tout un habitus de la bourgeoisie qu'on retrouvait déjà chez Norbert Elias. Et à ce moment-là, on peut revenir à l'idée que Habermas développe, en fait, dans de l'espace public. Ce qu'il dit, c'est que ça soit l'État ou les monopoles privés, il y a de nouveau une féodalisation de ce que lui appelle la publicité, c'est-à-dire la capacité, lorsque une opinion publique se forme, à mettre en valeur les opinions, les expressions personnelles. Et c'est ce qu'il appelle véritablement une féodalisation, c'est-à-dire il faut que l'on dépende de quelqu'un d'autre, il faut que l'on dépende des financements de l'État, il faut qu'on dépende de l'aval d'une rédaction, il faut qu'on dépende de temps en temps des avis d'un financeur privé. Mais donc, cependant, le podcast est, on va dire, une continuation, même dans une société bêtement, entre guillemets, libérale, du droit de la liberté d'expression. Elle est permise par le droit pour l'expression de ce qui nous est personnel. Donc c'est pour ça que je me disais, ce serait intéressant de revenir sur le podcast en tant qu'alternative démocratique permise par le droit, mais qui permet, on va dire, une expression différente de l'opinion publique.
Oui, c'est bien ce que tu racontes. En fait, le podcast, selon toi, ça sert à développer l'opinion publique à nouveau. On dépasse de cette manière les médias traditionnels. C'est un dépassement par la technologie, par le fait que tout le monde puisse s'y prendre soi-même pour produire ses propres podcasts. C'est bien ça que tu veux dire ?
Oui, mais, il faut qu'on revienne là à un niveau plus bas. Par exemple, quand on voit comment se présente un podcast. Et je pense que ça a déjà été fait avant, soit par Benoît ou Mathilde, qui expliquerait clairement que le podcast a un effet très différent de l'expression sur les réseaux sociaux. Parce que c'est une parole individuelle ou d'un petit groupe de personnes, même si, parce que c'est toujours des émissions qui sont produites. Comment on va à un podcast ? Il faut se poser la question de l'interface, selon la notion d'archéologie des médias. Souvent, vous pouvez faire que 3-4 choses vis-à-vis d'un podcast. Lancer la voix, augmenter ou pas le son, aller, si c'est plus ou moins bien fait, à des moments de la vidéo, mais il n'y a aucun contrôle, il n'y a aucune capacité de réponse directe comparée aux réseaux sociaux. Et surtout, c'est l'expression d'une voix individuelle, parce que qui va répondre à un certain besoin économique, par exemple. Qu'est-ce que tu écoutes comme podcast, Nicolas ?
J'écoute plein de podcasts différents, mais c'est vrai, ça m'arrive d'écouter des podcasts de philo, en anglais, mais sur Spotify. Ça m'arrive d'écouter des podcasts un peu drôles, genre « À bientôt de te revoir », c'est des entretiens, mais un peu surjoués et un peu mis en forme avec des personnes assez engagées. Ça m'arrive d'écouter « Dépêche » une fois de temps en temps, le podcast d'Olivier Minot, qu'on entendra dans pas longtemps, c'est un peu de l'autopub. Mais voilà, c'est à peu près ce que j'écoute comme podcast.
Alors, quelque chose qui est commun, avec une ressource limitée, dans une ressource limitée, dans un espace qui est réputé similaire, avec différents choix, et qu'il faut essayer de bien cibler le choix, ça s'appelle un...
Attends, un espace limité, mais quand même un espace médiatique ou pas ?
Ça peut être un espace médiatique, mais un espace qui n'est pas la place publique, un espace qui est choix où tu as différents...
Un marché.
Exactement. Le problème, c'est que la référence à l'individualité dans le podcast peut renvoyer très facilement au marché. Au marché en tant qu'il renvoie l'individualité de certaines personnes, aussi bien dans les sujets qu'ils choisissent, qu'il faut bien toucher un public. Or, ce public est fragmenté selon les préférences de ce podcast. Et... alors que l'opinion publique n'est pas un marché, les podcasts permettent en fait la modélisation aussi de l'espace public en tant que marché. Et certains, tout en gardant, là d'un point de vue bêtement pragmatique, ça coûte peu cher. Je ne sais plus si c'était avec Benoît ou avec Nicolas, avant de préparer la JDR, qui disait « Mais regardez, maintenant, si vous allez sur le site d'une entreprise, cela demande finalement très peu d'économie d'échelle pour exprimer, on va dire, le caractère d'une entreprise, d'avoir une petite vignette avec un podcast dessus. Et finalement, qui pourrait s'en plaindre ?» Parce que, bien sûr, connaissant un peu le public, je sais très bien qu'on ne l'écoutera pas ou que l'utilisation de ce podcast nous énerverait plus qu'autre chose. Donc, c'est très paradoxal. Le podcast permet d'aller au-delà du contrôle des médias sur leur propre contenu. Ça empêche l'autoréférentialité que dépeignait Bourdieu, c'est-à-dire que les journalistes se lisent les uns les autres. Parce que cela permet, clairement, la référence, ce sera ce que l'on préfère, ce qui nous intéresse. Le problème étant que les institutions qui ont tendance à utiliser ça chez nous, c'est le marché. Et le problème, c'est que je ne dis pas, par exemple, que tout ce qui se passe sur Binge Audio est effectivement un marché. Je ne dis pas que Victoire Tuaillon est en train de créer un nouveau marché. Le seul problème, c'est qu'il y a véritablement des agrégats de préférences. Et à part en mobilisant des réseaux entre les différents podcasteurs et podcastrices, eh bien, ça commence à être extrêmement compliqué d'essayer de faire le tri soi-même. Nous nous remettons complètement à l'expression d'une individualité qui a gagné ce que l'on appelle en économie un effet de rente. C'est-à-dire que les premiers arrivés gagnent aussi bien du savoir-faire que du capital social, que une compétence, enfin de l'information qui leur permet beaucoup plus facilement de créer le réseau dans la cartographie des podcasts qui leur permettrait de toucher des gens. Donc il y a un immense problème, on pourrait dire, du rapport de l'opinion publique. L'opinion publique est la cible, mais elle n'est pas créée par les podcasts, parce que c'est un moyen d'expression extrêmement limité sur ce niveau-là. Donc, est-ce que je me dis, sans penser à un âge d'or des grands réseaux, des grands médias qui s'adressaient à tout le monde, peut-être, de temps en temps, ne faudrait-il pas retrouver une certaine forme de médiation et de sélection des informations.
Tu suis d'une certaine manière quand même le mouvement réactionnaire qui est exprimé par Enthoven ou par d'autres, si je ne m'abuse là, avoir peur de la foule, avoir peur de tous ces podcasts qui vont te sauter dessus, t'en as peur un peu, non ?
C'est pas ça. Disons que, est-ce qu'on est obligé que ça soit en fait les réalisateurs et réalisatrices des podcasts qui finissent par faire le tri, j'ai envie de dire. On peut se poser la question. Et là, je vais revenir à quelque chose qui n'a absolument aucun lien. Avant qu'il existe de droit du travail, avant qu'il n'existe des ministères du travail, il existait des choses qui s'appelaient les tribunaux prud'homaux, et où en fait les négociants et les travailleurs souvent négociaient des conditions de travail en saisissant le tribunal. Alors, il y avait plein de problèmes avec ça. Néanmoins, c'était très intéressant parce que ça ne constituait pas des corps intermédiaires via les syndicats, tels qu'on le voit maintenant, mais le sociologue et historien Alain Cottreau parle de public intermédiaire. Et je me pose la question, est-ce que le public intermédiaire change dans le sens que ce n'est pas forcément un corps constitué tel les gens qui écoutent des podcasts, les gens qui en produisent, qui sont censés être disséminés dans la population. Il faudrait peut-être, ou il faut se poser la question, d'institutions qui sont capables, en fait, de mobiliser par des effets de pouvoir, selon si les gens les sollicitent ou pas, pour pouvoir discuter des contenus des podcasts, pour décider du statut des salariés, des gens qui font des podcasts, ou même tout simplement comment se règlent les plateformes et comment on fait peut-être pour toucher plus de monde, toucher moins de monde, ou le faire avec plus de transparence.
En somme, un service public.
Et oui, sauf que les tribunaux prud'homaux n'étaient pas un service public, ils étaient rattachés à la justice. Donc on peut se poser la question de si, plutôt que d'avoir une sorte de CNC du podcast où c'est l'État même qui déciderait, se poser la question de créer des institutions du commun, comme on pourrait à la manière de Lenin Nordstrom, qui ne soient ni publiques ni privées, mais saisissables, parce que le podcast peut faire une mission de service public. Et là, je reviendrai sur une notion que j'ai connue par quelqu'un que j'apprécie peu, mais il faut se poser la question de est-ce que c'est capable alors de créer quelque chose de commun ? Eh bien, tout à fait, si on pense à la question de la créolisation. Si on va au-delà des discours de Mélenchon et qu'on lit un peu Édouard Glissant, il faut comprendre que la créolisation, selon Édouard Glissant, c'est l'idée profonde que des éléments différents, tout simplement parce que les créateurs des podcasts viennent de classes sociales différentes ou ont des intérêts différents, ou que le public des podcasts sont soit ressemblants vis-à-vis des gens qui créent le podcast, soit sont totalement différents. Il faut se poser la question, par ces nouvelles institutions, si ces éléments différents peuvent se mettre en valeur entre eux. Et c'est ça la créolisation. C'est non pas pour dire « Oh, la différence est belle », c'est dire « Le fait que nous soyons différents les uns les autres nous permet de nous retrouver sur certaines institutions du commun ». Et je pense que c'est cela, à mon avis, l'esprit, le nouvel esprit de l'opinion publique que permet le podcast d'une manière différente des réseaux sociaux. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez, parce que j'ai eu la sensation même que ça pouvait aller des fois en dehors ou même à côté de ce qui était exprimé, parce que le principe du podcast, c'est aussi le fait que ça soit très, le terme artisan avait été prononcé, que ça soit la possibilité de le faire. Donc, peut-être il faut se poser la question si une nouvelle institution pareille ferait perdre du pouvoir à plus de gens au profit d'une meilleure utilité ou d'une meilleure construction de l'opinion publique via les podcasts.
Mais en somme, juste pour revenir sur ta conclusion, c'est la différence dans ce, pour toi, la différence, il ne faudrait pas l'utiliser comme un tout qui formerait la base de la production de podcasts, mais comme un outil d'ingénierie sociale, si je ne m'abuse.
Exactement. Une ingénierie sociale qui serait dans la droite lignée des premières démocraties économiques qui ont été faites durant le 19e siècle, mais qui auraient été faites dans le 19e siècle, mais qui ont été remplacées par l'étatisation, qui, sur certains points, a aidé, sur d'autres points, n'ont pas aidé. Et là, ne le faire au niveau des, entre guillemets, des moyens de production pour avoir le mode marxiste, mais bien ce qu'on pourrait dire, une sorte de se poser la question des moyens de communication. Le podcast faisant appel à une certaine forme, tout simplement de machinerie, rien qu'à voir tout ce qui est utilisé aujourd'hui pour la journée de la radio. Mais par ailleurs, se poser la question de manière différente si la parole n'a pas été dans la manière de concevoir la mission politique, n'a pas été en fait mise de côté, comparée au contrôle de la vie quotidienne. Mais maintenant que chacun a la possibilité technique d'intervenir, se poser la question de la collectivisation, de la communication, de la socialisation des moyens de communication me paraît nécessaire. Et je pense que les sciences sociales, que ce soit du côté de l'archéologie du média, de la théorie économique ou donc de la théorie politique d'Habermas, permettent, à mon avis, dégratigner la surface. Et j'espère que la journée de la radio nous permettra de continuer plus sereinement.
Merci infiniment, Arthur, pour ce sens incroyablement éclairant.